Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot. Spéciale finale de la Ligue des Champions.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, le PSG est champion d'Europe, messieurs, dames. On est là dans un after exceptionnel jusqu'au bout de la nuit. Ici au Dopôle Restaurant de l'After jusqu'à minuit, et ensuite jusqu'au bout de la nuit avec Walid Acherchour, Karine Galli, Elton Mokolo, Maxime Chalot qui prendront la suite. Pour le moment, ils sont là avec moi, Emmanuel Petit. Salut Manu.
Bonsoir.
Attends, bonsoir.
Daniel Riolos, c'est là. Salut Daniel.
Salut les amis.
Et Florent Gautreau, salut Florent.
Salut à tous.
Le back-to-back, les gars, l'histoire du football français, parce que c'est toujours comme ça lors de ces grandes soirées. On va bien sûr analyser le match dans le détail, faire une évaluation complète, parler des choix tactiques, du coaching, du match. On aura plein de réactions toute la nuit sur RMC. Mais les grands afters historiques, Daniel, il faut toujours qu'on les démarre. Voilà, en prenant un peu de perspective, ce qu'a fait le PSG ce soir, c'est historique. C'est la troisième victoire en Ligue des Champions d'un club français. La deuxième d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Et évidemment, on va une nouvelle fois mettre ça en perspective dans quelques minutes. Jean-Louis Tour est également avec nous. Il est au stade, toujours évidemment à Budapest, Jean-Louis.
Oui, je suis là où la fête continue. La fête continue, les Parisiens continuent de se passer le trophée de main en main. Ils ont mis autour du cou un t-shirt champion d'Europe. Encore, je le vois autour du cou de Luis Enrique qui finit. Il est en nage, il a transpiré Luis Enrique. Il a fait un vrai match de 120 minutes aussi. Ils sont tous regroupés à l'opposé de moi là, toujours côté tribune des supporters parisiens, des 17, 20 000 supporters parisiens qui ont fait un bruit énorme tout au long de la rencontre. Et c'est les scènes de fête d'il y a un an qui vont se reproduire encore pendant 24-48 heures.
Les gars, c'est la 20e année de l'after. C'est la saison de nos 20 ans. C'est magnifique. Il nous manque juste un
truc. Tu vas ajouter la Coupe du Monde après?
Voilà, j'allais dire, il nous manque un truc, c'est la France championne du monde. Et là, on aura fait la totale manie.
C'est marrant parce que Jean-Louis, je sais pas comment tu voyais le truc, mais le nombre de fois où cette année on a entendu des gens dire bon, après tout, maintenant qu'on l'a gagné une fois, si jamais ça devait mal se passer, on en a une au placard, on est content. On pensait pas que l'émotion de la deuxième fois, finalement, elle serait aussi forte que la première. Et je crois, je me permets une petite analyse psychologique, je crois que si ça avait été facile ce soir, ça aurait été moins fort en émotion que la façon dont ça s'est passé. L'année dernière, t'as fait une finale où tu t'es baladé, c'était la première, c'était extraordinaire au-delà de toutes les attentes. Et cette année, le fait qu'elle vienne au bout d'un match de souffrance où t'as encaissé le premier but, c'était un match fermé, on s'y attendait, et ça se termine au péno, c'est une explosion de joie qui rejoint finalement l'émotion de la première fois, alors qu'on pense tout le temps que la première fois, bah, c'est indépassable, on n'oublie jamais la première fois. Bah non, en fait, la deuxième fois, elle est tout aussi forte, peut-être même un peu plus, je sais pas, mais je trouve ça assez dingue ce qui s'est passé ce soir.
Manu.
Oui. Mon avis,
bah lui, il va pas.
Ton émotion,
Manu.
Jean-Louis, lui, il était
pour
le pauvre, il était pour les Gunners, c'était la première.
Non, je crois pas.
Si tu veux me poser une question, pose-la à Daniel.
On est sincère et honnête ici, il dit la vérité, c'est son club. Et moi, je le comprends parfaitement.
Est-ce que c'est comme un débat politique, on a le droit d'avoir le même temps de parole ou pas?
On va essayer.
Non, ce soir, ça va être compliqué.
Je te le garantis pas.
Non, pour moi, c'est un exploit en vue de ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, avec toutes les difficultés qu'ont rencontré le staff du Paris Saint-Germain à gérer cet effectif pour les amener jusqu'en finale. Franchement, pour moi, le meilleur à gagner ce soir.
On en parlera plus tard.
Tout cas, confirmer, faire un back-to-back. Alors pour moi, la première restera toujours particulière. Mais ce soir, c'est vrai qu'elle a une sensation particulière, mais sur d'autres mesures.
Jean-Louis, donne-moi je veux l'émotion du supporter, Jean-Louis. Ah. Sur la première et la deuxième fois. Comment t'as vécu ça?
En fait, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense quand même que la première, c'est un truc exceptionnel parce que tu repenses à toutes les galères et tout, à toutes les défaites.
Oui,
et tu dis enfin, c'est notre tour, enfin, on y a
débloqué.
Droit.
Mais ce soir, je pensais pas que ça.
Là où je te rejoins, c'est que il y a un moment de la soirée. Moi, j'ai pensé qu'elle allait échapper aux Parisiens, tu vois, ce qui n'a jamais été le cas l'année dernière. À un moment, je me suis dit, c'est mort. Ils vont défendre comme ils ont fait tout le match. Ils ont un but d'avance. Ils vont truquer le match du début à la fin. Ils vont mettre une minute trente au lieu de 50 secondes à faire une remise en jeu.
Elle est incroyable.
Voilà. Et donc voilà, d'avoir souffert autant, l'émotion elle est exceptionnelle, oui. Elle est exceptionnelle. Voilà, mais voilà, je pense aussi qu'il y a un truc que les supporters du PSG vont découvrir, c'est que ce soit la deuxième, la troisième, la cinquième, la dixième, la quinzième pour les supporters du Real, il y a toujours une émotion de dingue quand tu gagnes la Ligue des Champions.
Laurent, je pense que l'histoire du foot surtout est en marche pour le Paris Saint-Germain, parce que tu rentres dans une autre galaxie, dans un autre type de club. Tu rentres dans les galaxies Real, Milan, Ajax. Et ça, je pense que là
il en faudrait une troisième.
Oui, il en faudrait une troisième
là,
encore.
Non, mais t'es bien, t'es très très bien.
Non, mais tu peux faire mieux.
Encore.
Non, mais tu rentres dans une autre dimension, oui, dans une autre catégorie.
T'as plus gagné.
Tu vas manger une autre table.
Ouais. Voilà, là, maintenant.
T'assois une autre table. Et moi, je pense que ce que j'ai senti, je fais exactement comme Jean-Louis. J'ai pensé que cette finale allait leur échapper. Et tu te dis. Ça aurait pas été tout à fait normal, parce que finalement Arsenal a trop peu montré dans cette finale, hein, j'entends, pour la mériter.
Justement, tu sais bien que les braquages et la séance de pénaux remportée par une équipe qui l'a pas mérité tout au long du match, c'est un grand classique.
Oui, mais justement,
c'est un grand classique. Mais moi, j'ai pas pensé qu'elle leur échapperait, parce que je sens que cette équipe est habitée par quelque chose qui va les accompagner. Je sais pas encore combien de temps. C'est pour ça que dès le début de la saison, je me suis jamais inquiété, parce que tout était trop bien géré. Je les voyais plus forts que l'année dernière. Alors là où, parce qu'on était ensemble quand on a regardé Flo, et quand tu m'as dit ils sortent quand même les bons joueurs et les tireurs de pénaux, bon effectivement il y avait quelque chose de rationnel à dire que oui ça pouvait peut-être mal tourner, mais vraiment ils sont habités. Et puis parce que je me suis dit Arsenal, pour avoir préparé un match comme ça, ils ont également préparé une séance de pénaux, ils ont également fait bosser ça toute la semaine. Donc oui, il y avait plein de motifs d'inquiétude, mais cette équipe elle est habitée par une force qui est supérieure à tout le monde.
Moi je rebondis sur un truc, c'est ce que tu viens de dire sur l'habiter. Oui. Tu as tout à fait d'accord sur le mental, parce que ce qui se passe sur la série de tirs au but, je vais juste m'arrêter sur la fin parce que c'est quand même le plus fort. Sur la fin, Arsenal n'a pas buté sur un Safonov qui a fait des exploits.
Non, c'est eux qui
ont tiré à côté les deux. Moi je dis qu'ils ont craqué mentalement, même le remplaçant du remplaçant à Paris, Beraldo, il allait mettre son péno.
Beraldo, tout le monde flippait.
Tout le monde flippait.
Quand tu vois Beraldo, tu te dis pourquoi lui.
Et donc si tu veux, ce que j'ai vu ce soir, ce que Luis Enrique entre guillemets a apporté de dingue, c'est que il les a tous habités. Ramos il tire en premier,
Ramos ira jamais. Ramos il m'inquiète jamais sur péno.
L'autre il lui a mis 70 secondes d'attente.
Non,
est-ce que je veux dire,
tu sais ce que j'en ai été à souhaiter un moment. C'est complètement fou. Si jamais il y en a un qui rate, je veux que ce soit Zaïre Emery, parce que lui on lui en voudra jamais.
C'est vrai que Beraldo, vu la réaction du supporter ici,
Zaïre Emery, mais jamais personne n'aura pu lui en vouloir.
Il avait la pression Beraldo, parce qu'ici tout le monde un peu.
Évidemment, alors que Beraldo, tu diras pourquoi il
claquait des genoux.
En tout cas,
ce qui est vrai, c'est que dans cette finale, qui était tellement mal embarquée, comme on l'a dit à la mi-temps, Daniel me dit, putain, le piège va fonctionner à 100%, le piège d'Arteta. Et bien malgré tout, ils ont réussi à renverser le truc. C'est quand même aussi dans la tête, pas seulement, mais aussi dans la tête. Et pourtant, on y reviendra sans doute, physiquement, j'ai trouvé que beaucoup de Parisiens ont beaucoup souffert.
On est là jusqu'à minuit, et si vous êtes ici au Dopo avec nous, vous pourrez intervenir avec nous dans les débats tout à l'heure, évidemment, pour partager vos analyses, votre joie de supporter du PSG.
Vitinha homme du match, hein, Gilbert. Vitinha homme du match.
Ah ouais.
Ouais, bizarre, je suis d'accord.
Ouais, très bizarre. Ouais.
Moi, j'ai pas de
Neves. Ouais, Neves, j'ai trouvé meilleur. Déjà, au milieu, pour moi, Neves, c'est le meilleur.
Moi, je suis incapable de sortir un homme du match.
D'ailleurs, juste un truc sur Vitinha, je trouve aussi que c'est révélateur d'un vrai truc quand même. C'est la force du collectif qu'a fait Luis Enrique. J'en parlais avec Jérôme. Mais une finale de Ligue des Champions où tu perds Dembélé sur blessure, où Kvaratskhelia est pas au top et doit sortir, où Vitinha ne peut pas finir la prolongation parce qu'il est cramé, tout ça c'est des leaders, hein, normalement. Normalement une équipe de Ligue des Champions se remet pas d'autant de joueurs qui partent sur une finale.
Et surtout qu'on pensait tous que le banc d'Arsenal était au-dessus.
Tout à l'heure, Jean-Louis, tu vas nous faire le 11 qui a fini le match. Parce que le 11 qui a fini le match, je sais même pas s'il joue contre Angers en Ligue 1.
C'est le 11 qui a été champion.
C'est ce que j'ai dit, c'est le match d'une rotation pour un match contre Toulouse ou Brest.
C'est ça.
Et si tu veux,
non mais c'est une fin de match, ça avait été
d'accord. Mais à la fin, non mais honnêtement, Jean-Louis a raison sur un truc. Si on avait fait les 3 points, ça aurait été un de mes 3 points. C'est une stratégie à laquelle moi-même je ne croyais pas trop. C'est un des trucs que j'ai dit en début de saison. La stratégie, on va dire, du recrutement limité, que j'ai vraiment pas validé, moi, en l'occurrence, et qui est validé ce soir, à savoir, je vais y arriver avec cet effectif, avec ces carences-là, et en tout cas avec ce groupe-là. Et moi, franchement, je pensais pas.
Ce groupe-là, tu n'y touches pas tant que tu n'as pas analysé que les mecs n'ont plus l'envie.
Non, mais t'es d'accord qu'on a eu un doute. Enfin, il y a eu des doutes à un moment donné. Dans la saison, tu vas plus te dire, on a fait des débats avec Walid, je me souviens, en se disant,
est-ce que quand
moi,
même tu touches pas le bout?
Je vais pas te dire oui, parce que pour le vrai. Coup, non,
toi,
c'est
toi,
vrai.
Toi, c'est vrai que t'étais pas sur cette ligne-là, mais.
Parce que j'ai peut-être mis du temps à être convaincu, même s'il a beaucoup changé de choses, mais une fois qu'il a emmené et que ça a basculé, le match contre City,
d'accord,
ensuite,
tu sais,
pour moi, tout est devenu très clair.
Mais tu sais que moi, qui suis pourtant évidemment fan de ce qu'il a fait,
oui.
Je pense que dans cette stratégie-là, j'étais un peu sceptique et j'ai eu des doutes parce que, encore là ce soir, quand tu vois le banc d'Arsenal et quand tu vois le banc de Paris, bah, tout le monde a pu se dire, est-ce que ça va être suffisant? Donc, effectivement, stratégie risquée, moi, pour moi, mais stratégie validée, la stratégie de
Luis Enrique et Scampos. Avant d'écouter Dembélé, on a des supporters ici au.
Ah, bah, il y a que ça, il y a feu d'artifice devant un restaurant, c'est rare quand même. Hein.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ton prénom?
Sandy.
Sandy, c'était comment?
Alors, c'était très bien. Mais je vous avoue que j'étais à deux doigts de me faire caca dans la culotte.
Ah, à quel moment?
Ah, ok.
Quand on se rapprochait des pénaltys.
Ouais.
Ah, là, pendant non.
Pendant non, mais je déteste les pénaltys.
Oui, comme tout le monde, oui. Sauf quand ça tourne bien.
Moi, je déteste faire caca dans la culotte.
Ouais.
Quand ça tourne bien.
Bon, voilà. Quel est l'homme du match pour toi?
Manu Petit.
Qui? J'ai pas entendu.
Le gars qui est à côté de toi, Emmanuel Petit, champion du monde 98.
Ah.
Ah. Je parle pas aux filles qui font dans leur froc.
Alors j'ai pas fait. Hein.
Donc j'en reviens à Sandy, à l'homme du match, c'était qui?
Alors moi j'ai beaucoup aimé Kvara, même si on n'a pas fait beaucoup de passes. Mais c'est ok parce que ça nous a permis de gagner.
Il a provoqué un pédo, quoi.
C'était horrible.
Il a provoqué le pédo, hein.
Non, non, mais Kvara, je n'accepterai pas que ce soir quelqu'un dise qu'il a pas fait un bon match. Quand sur un match verrouillé, quand sur un match aussi fermé, face à une équipe qui défend à ce point bien, tu es l'homme qui permet l'égalisation parce que t'as provoqué, t'as chopé le pénalty. Kvara, il a fait un match excellent.
Alors
basta.
Moi, et petite parenthèse, Gilbert.
Ouais,
l'année, il aura été parfait.
Sur cette action qui est quand même importante, le péno, comme dit Daniel, j'ai pas compris pourquoi l'arbitre n'a pas mis un deuxième carton jaune. Est-ce qu'il y a une
règle? Et ça, en fait, j'arrive pas à comprendre l'unanimité. Ouais. On en parlera tout à l'heure.
Non, mais je sais.
Voilà, il y a péno, pourquoi il a dû prendre un carton, en fait?
Non, parce que tu as faute dans la surface, tu as carton jaune. La faute, elle est importante.
Oui, mais pourquoi carton?
Il pourrait y avoir aussi un péno pour Arsenal à
mon avis. Ça, je n'ai pas totalement compris pourquoi ce truc.
Est-ce que tu es prête pour la Coupe du Monde? Parce que ça va être pareil, normalement, la Coupe du Monde.
Ouais, elle est peut-être que PSG, peut-être ça s'en fout, la Coupe du Monde.
Pour la Coupe du Monde, je pense que les gros favoris, ce sont le Portugal.
Ah, ok, d'accord.
Dites-moi si je me trompe.
Pourquoi pas.
Voilà, pourquoi
mais
pas.
Je suis pour la France.
Okay. Oui, on avait compris.
Alors, pour l'Italie, dans la moindre des mesures, mais.
Non, ils sont plus là. Enfin, voilà. Ils sont pas là.
Là, t'as raté l'étape.
Mais je pense que le Portugal, ils vont être très très bons cet été.
Ok.
Sandy, merci.
Merci Sandy.
C'est gentil.
Merci.
Et on écoute tout de suite Ousmane Dembélé. Première réaction tout à l'heure, c'était sur Canal+.
Ouais, exceptionnel. C'est une grande soirée. Voilà, on a travaillé dur cette saison pour pouvoir réaliser le back-to-back. Et c'est magnifique. Non, on est très heureux ce soir. On va savourer. Bien sûr, ça a été difficile. Toute la saison a été difficile. On a dû gérer beaucoup de choses, mais finalement on est encore vainqueur de cette Champions League et on est tous heureux.
Jean-Louis, qu'est-ce que t'as encore sur le terrain là à Budapest? Parce qu'on voit Safonov.
Qu'est-ce qu'il a, Safonov? On dirait qu'il a une descente, ouais, une descente d'acide.
Ouais, comme le.
Il est possédé.
Et Luis Enrique vient lui parler là.
Quelle saison pour lui quand même, hein, Safonov.
Ah, c'est incroyable, Safonov.
Parce que finalement, c'est le seul homme nouveau, parce que Donnarumma avait été un acteur majeur l'année dernière, donc le changement de gardien, c'était un des éléments clés. On n'a pas eu le gardien qu'on attendait, on a eu l'autre qui partait pour être remplaçant, et le gars, il est devenu un acteur important, quoi. C'est fou quand même ce qui s'est passé pour lui cette année.
Donc les joueurs toujours sur la pelouse.
Oui. Ils sont toujours dans la surface de réparation. Il y en a qui sont encore assis dans cette surface de réparation. Il y a des proches, des familles qui sont autour d'eux. Ils continuent à se passer le trophée. Là c'est un des enfants des joueurs d'ailleurs qui a le trophée, qui se fait prendre en photo avec. Et ça continue pour eux. Ils vont étirer le moment. Alors là, je crois que malheureusement pour le public, va pas y avoir moyen de repartir avec un bout du filet ou avec un bout de pelouse, comme ça a été le cas l'année dernière à Munich. Parce que là, je peux vous dire que le cordon de CRS hongrois, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la défense d'Arsenal première mi-temps. Là, il y a pas un espace qui reste.
Bon, t'as eu des nouvelles de Pierre Dorient, Julien Cazard, Jean-Christophe Rouet.
Alors, il y a JC aussi.
J'ai eu un Pierre. Bah Pierre, il était à l'antenne tout à l'heure.
On l'a entendu.
Voilà, lui, il nous a pas entendu, mais on l'a entendu hurler. Tout va bien. Bon, Pierrot, qui est de toutes les finales gagnées du PSG, hein, et qui n'était pas à celle perdue. C'est lui le talisman.
Qui ça?
Pierre Dorient.
Ah oui, d'accord.
Pas mal. D'accord. On le rappellera un peu plus tard. On verra si on arrive. si on arrive à la voir.
Pierre Dorion est donc une colombe.
Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ils mettent des...
Ah, il y a un look. Il y a un look qui avait été
masque
prévu.
De ski, masque de ski Nike qui se prépare avec les joueurs. Là,
petit OP marketing là-dessus. Voilà,
petit OP marketing.
Ah, donc tout le monde aura ce masque de ski dans pas longtemps dans Paris.
Ou sur la plage. Ou sur la plage. Ce qui est pratique sur la plage.
Bah, pour les yeux, c'est bien, mais...
Alors d'ailleurs, je précise que Flo est venu avec son t-shirt désormais iconique. Avec à l'avant la tête de Luis Enrique, vous ne pouvez pas comprendre. Et à l'arrière, The Flow, The Goat, évidemment.
Lui aussi, il est en OP marketing.
Ouais, je suis en OP marketing, je l'ai sorti juste au coup de sifflet final.
Tu le mets en boutique?
Bah, je vais
mets-le en boutique,
Je vais faire un test Twitter, un test X, et je vais voir si je le mets en boutique. Bon, il sera disponible au dos.
Bon, peut-être quand même, parce qu'on l'a beaucoup dit, mais deux de suite, Flo a dit, bon, tu rentres dans une autre catégorie de club. Alors pour le nombre, on n'est pas encore dans le top, mais dans le deux de suite, là, tu commences
à être... C'est 9e. C'est la 9e fois que ça.
Voilà, tu commences à être dans un groupe restreint.
Et la dernière fois, ça date, c'était il y a 8 ans, c'est le triplé, les deux fois comprises dans le triplé du Real.
16, 17.
Donc c'est, comme tu dis.
Il n'y en a eu que deux dans la Ligue des Champions. Les fois d'avant, c'était sur l'ancienne formule.
92, c'était sur l'ancienne formule. C'est vrai que c'était pas tout à fait la même densité.
Elle n'était pas aussi relevée. Il faut dire la vérité, ça n'était pas aussi relevé.
Non, c'est vrai que c'est pour ça que moi, je trouve quelque part que le PSG. C'est un peu comme l'histoire du ketchup pour les buteurs qui marquent pas. C'est-à-dire que le PSG, ça a été long, entre guillemets, on a suffisamment parlé de la malédiction. Mais là, les deux ans consécutifs, avec les deux victoires, comme tu le dis, dans une ère du foot où c'est plus dense, c'est plus compliqué à faire. Là,
effectivement. Et puis, si tu veux un petit. Allez, on va ajouter une petite crème chantilly de légende. Pour un club qui a été créé en 1970, trois Coupes d'Europe, et ben ça, pour le coup, ça n'a pas d'équivalent.
En termes de rentabilité.
Ça n'a pas d'équivalent. Voilà. Et un club, allez, on va pas dire, qui est installé dans l'élite de son championnat depuis 1974, et ben ça n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'autres clubs au monde qui ont fait ça.
Manu, est-ce que, toi qui as connu des grands clubs, est-ce que représente ce genre de trophée-là? Pour toi, là, comment tu l'inscris dans l'histoire du foot français, du PSG? Qu'est-ce que ça représente?
Ah ben, je suis d'accord avec les copains là. Je pense que ce qu'ils ont fait ce soir, ça leur a permis de franchir encore un palier, encore plus dans la hiérarchie européenne, et que après tant d'années pour se hisser justement et se mettre, ça me rappelle en fait une réflexion qu'avait fait un joueur. Maintenant, je peux me mettre à la table des grands joueurs. Vous vous rappelez de qui a ces citations?
Non, c'est Griezmann. Griezmann. Je m'en souviens pas.
Donc là, véritablement, là, le PSG a marqué véritablement un grand coup, parce que gagner sa première Champions League, on va pas dire que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais le confirmer derrière, ça me rappelle un peu l'équipe de France 98 lorsqu'on gagne l'Euro en 2000.
Ouais, c'est ça.
Tout le monde nous disait. C'est à vous aussi de confirmer ce que vous avez fait en 98.
Mais tu avais plus de maîtrise aussi, comme disait Daniel, dans cette deuxième année. Tu avais plus de maîtrise dans la deuxième victoire, quoi.
Plus de satisfaction dans la deuxième victoire.
C'est pour ça. Alors, la première, pour moi, elle reste particulière, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que cette deuxième, pour moi, elle est d'autant plus. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que dit Daniel, moi, j'ai flippé pour le PSG à un moment donné. Pas simplement lorsque j'ai vu les cadres sortir sur blessure. Parce qu'il restait quand même quasiment une demi-heure et la prolongation derrière. Donc je me suis dit non, c'est quand j'ai vu en fait Safonov se blesser, quand on a eu le gros plan sur Chevalier. Là je me suis dit.
Tu fais un premier mi-temps là.
Oui, mais je me suis dit si tu perds Safonov, qui fait quand même des trucs incroyables.
Ouais, après il y a.
Ça peut être une histoire aussi.
Je pense que Daniel, les Anglais vont parler. Les Anglais vont parler de la faute sur Madou Ekpé, qui aurait pu valoir un penalty.
Non mais ce fait de jeu, Daniel.
C'est aussi.
Je me rappelle, j'ai regardé tous les supporters parisiens. Et personne n'en menait large, quoi. C'est tout le monde s'est tué, tout le monde a fait des soupirs comme s'il y avait le stress qui arrivait d'un seul coup. Donc pour moi, d'ailleurs, il y a eu quand même des faits de jeu.
Par rapport à l'arbitrage, Gilbert, il y a un truc, je vais le dire honnêtement, autant moi je pense qu'il y avait un deuxième carton jaune qui aurait pu changer parce que c'était à 10 après pour Arsenal sur la fin du match, peu importe. En revanche, l'arbitrage de la deuxième période est globalement favorable au Paris Saint-Germain.
Ah mais ça, depuis le début, on le dit.
Si on veut analyser l'arbitrage.
C'est le nouveau Real Madrid, le PSG. Ils peuvent pas se plaindre des arbitres.
Je parle pas que du penalty sur Madueke qui aurait pu être sifflé.
Franchement, ça peut être sifflé.
Mais je parle globalement de certaines fautes.
On disait la même chose après la demi-finale. Hein, je rappelle
pas. Oui, mais
c'est le nouveau Real. Ça, c'est le nouveau Real.
Il y a un truc sur l'arbitrage. Non, mais moi, je pense qu'il y a un truc très clair sur l'arbitrage. C'est que l'arbitre, il en a eu marre Et à la fin de la première mi-temps, oui, il en a marre de voir les joueurs gagner du temps d'Arsenal à ce point.
Il
se dit, et d'ailleurs, le corner que Saka doit tirer après le temps additionnel, il lui dit, tu le tires pas. Alors que d'habitude, on laisse toujours tirer les corners à ce moment-là. Absolument. Mais il prenait tellement de temps qu'il en a eu marre. Après, il met jaune dès la reprise à Mosquera parce qu'il était parti pour faire ses 50 secondes pour faire une touche. Et donc, je pense que globalement, il est rentré dans un mood où il avait envie de faire aucun cadeau à Arsenal.
Jean-Louis, je pense qu'il y a deux choses. L'arbitre lui-même tout seul. Et c'est là où la pression des entourages, tu sais, que ce soit les bancs ou les joueurs, c'est pour ça que je dis qu'à la mi-temps, il peut aussi se dire des choses par rapport au quatrième arbitre, avec les entourages qui disent, vous pouvez pas laisser faire ça, vous pouvez pas laisser gagner autant de temps. Cette pression-là, finalement, elle a pu servir, effectivement, parce que l'arbitre, il a arbitré différemment en deuxième période. Comme si les Parisiens lui avaient dit, si ça continue comme ça, la finale, elle sera tronquée. Et je pense qu'effectivement, en tout cas, il avait un arbitrage différent. Je dis pas évidemment qu'il a arbitré pour Paris, mais il se trouve que les décisions ont plus tourné en faveur du Paris Saint-Germain. Mais je pense que Arsenal, là-dedans, on y reviendra sans doute, mais c'est à la fois planté dans le jeu, mais aussi dans cette gestion-là. Parce qu'à force de ne pas avoir de temps effectif, de vouloir traîner et tout étirer,
à un moment, il faut jouer au foot quand même.
Faut y aller, faut faire les touches, faut pas aller changer de ballon, tu sais, au moment de la touche, faut arrêter ça. Que tu décides de jouer comme ils ont fait très bien, en faisant du pressing que parfois, en allant parfois jouer en transition, parfois bloc bas. Enfin, la maîtrise tactique, elle était bonne. Mais si c'est pour aller gratter des ballons en touche à la 20e minute de jeu,
c'est ça. Que tu le fasses dans le dernier quart d'heure, pourquoi pas. Mais là, dès la 20e, dès la 10e, c'est pas possible. Mais
d'ailleurs, il faut
une pause, les gars, s'il vous plaît. Okay. Et ensuite, on écoutera Désiré Doué, on continuera l'analyse. Jean-Louis, tu restes avec nous tant que tu peux rester. Hein. Et tant que t'as pas autre chose à faire, enfin, qu'est-ce que t'as de mieux à faire?
Rien. Alors, après, j'irai à la chasse aux invités, là, comme l'année dernière. Je tenterai
ça. Parfait.